Bonjour, bienvenue dans le hall des Grands Moulins de Paris 7. Au premier semestre, les ateliers Denis Diderot, qui sont organisés par le service culture, ont fait, entre autres, s'initier les étudiants à plusieurs disciplines, les échecs, le gospel, l'écriture. Et pour la deuxième année consécutive, Radio Campus Paris s'est rapproché des facs à Paris 7 et de Paris 3 également pour proposer un atelier d'initiation à la pratique de la radio, à son écoute, à sa compréhension et aussi à sa familiarisation. Le but c'était de faire découvrir les différentes facettes de ce média. C'est ce qu'on a essayé de faire, mais il reste encore une dernière facette qu'on n'a pas encore explorée. Et ben c'est tout simplement celle de conduire une émission de radio de A à Z en animant, co-animant, interviewant, chroniquant. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui dans le hall des Grands Moulins. On n'est pas en direct, mais on est en public, on est dans les conditions du direct. Et je remercie Guillaume à la réalisation et Grace aussi. Et je vais bientôt leur céder leur place pour les laisser animer et diriger avec leur petite voix, leur petite main, une émission originale sur le thème principal du livre. Mais il va être aussi question de plusieurs événements, groupes, événements culturels qui ont marqué l'année 2013 et qui ont marqué les étudiants de manière individuelle. Je vous les présente, ces étudiants, ils sont là aujourd'hui, pas au complet. Certains avaient des obligations. Tout d'abord, Flore, qui jouera dans la première partie de l'émission le rôle de l'animatrice en chef. Flore, tu es étudiante en LEA, anglais-espagnol. Salut Flore.
Bonjour.
Ensuite, on a Grace, qui est donc à la réalisation. Elle étudie le coréen à Paris 7, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. On a également Léonie. Salut Léonie. Tu étudies la géographie. Et enfin, Laura, étudiante en sociologie, et tu feras même aussi quelques chroniques dans cette émission. Trois.
Tout à fait. Bonjour à tous.
Trois chroniques. Donc, salut à toutes les deux. Je cite les étudiants qui n'ont pas pu être là. Il y a Loïc, qui est étudiant en maths info ici, qui avait des examens. Terry, qui est en alternance, donc qui est pas mal pris, et qui est étudiant en informatique. Et enfin, Louise, qui est étudiante à Paris 3, mais qu'on va entendre quand même, puisqu'elle nous a ramené une petite chronique enregistrée. Voilà, mesdemoiselles, c'est à vous. Je laisse la parole à Flore pour présenter notre invité.
Merci Jonathan, bonjour à tous. Bonjour Laura, bonjour Léonie. Nous sommes donc en direct du hall des Grands Moulins avec Alain Nicolas. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons parler littérature et plus particulièrement sur quelques romans qui ont marqué ou pas l'année 2013. Nous allons aussi rapidement parler musique avec Laura. Et pour commencer, nous allons un petit peu nous questionner à propos de votre métier de critique littéraire. Vous êtes donc critique littéraire à l'Humanité, au journal ?
Oui, oui, oui.
C'est bien ça ? Alors, dans le cadre de votre métier, combien de livres lisez-vous environ par semaine ou par mois ?
C'est difficile à quantifier. Je peux vous dire par an environ 200.
200.
Voilà.
Et comment les choisissez ?
Alors, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça peut être un petit roman de 128 pages. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus substantiel. Voilà, donc, mais grosso modo, c'est à peu près le tarif, si je puis dire, de lecture d'un critique professionnel. Voilà,
D'accord. Et comment vous choisissez les livres sur lesquels vous allez faire des critiques ?
Alors, on les choisit je dirais peut-être le plus simple, ce serait de dire que ce sont des livres qui suscitent le désir d'écrire, voilà, par l'intérêt, la nouveauté de ce qu'ils proposent, de ce qui nous amène à savoir sur la littérature et sur le monde. Voilà, c'est il y a des livres qui déclenchent l'envie tout de suite de s'y plonger, de les fouiller, de recopier des phrases et puis de se mettre à écrire. Ça, c'est évidemment l'essentiel. Et puis, il peut y avoir aussi des livres qui font partie de l'actualité et sur lesquels les lecteurs aimeraient, de toute façon, avoir un avis. Mais on est, en général, la plupart des critiques ne sont pas dans la problématique. Bon, il y a une actualité, il faut qu'on la couvre intégralement pour plein de raisons, d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de livres qu'on ne peut pas tout balayer et donner un avis sur chacun des romans qui paraissent en une année.
D'accord. Il vous arrive parfois, je pense en priorité d'écrire des critiques sur des ouvrages qui vous ont marqué, qui vous ont plu. Est-ce qu'il vous arrive de publier des critiques négatives et comment est-ce que vous le ressentez ?
Alors, ça m'arrive assez rarement, d'abord parce que, disons que ça découle de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on écrit sur un livre qui déclenche une envie. Bon, il y avait un écrivain fameux, Aragon, qui parlait de la pédagogie de l'enthousiasme, c'est-à-dire que ce qu'on essaye, c'est de faire partager, non pas un coup de cœur au sens où ce serait une sorte de réaction comme ça, purement sentimentale par rapport à un livre, mais disons un travail de lecture qui comprend du plaisir et qui comprend dans ce plaisir une part d'analyse, une part intellectuelle. Alors, la critique négative, je n'en fais pas beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un exercice qui est dans lequel on peut avoir des succès faciles. C'est très simple de démolir. Ça marche presque à tous les coups. On a tout de suite la posture du chevalier blanc qui va rétablir les vraies valeurs face aux imposteurs. Et puis c'est du temps perdu parce qu'on n'a jamais la place pour dire tout ce qu'il y a de bien à lire. Et c'est un peu dommage. Alors, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, il y a des livres qui ont un succès qui soit totalement immérité, et de temps en temps, ça peut énerver. Donc, il arrive qu'on prenne sa plume pour recadrer un peu les choses. Mais c'est assez rare, parce que on arrive assez facilement à comprendre quels sont les goûts d'un critique, et les choses vont d'elles-mêmes, quoi.
Merci pour cette réponse. Alors, pour continuer sur le sujet, sur notre sujet de prédilection qui est la littérature, on va s'écouter tout de suite un extrait de 1943 du prix Goncourt et pour parler après de celui de 2013. Alors, le prix Goncourt 2013 a été attribué en début d'année à Pierre Lemaitre pour son roman Au revoir là-haut, qui parle de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Alain-Nicolas ?
Alors, ce que j'ai pensé, c'est que ça n'était pas, contrairement à ce que certains m'ont fait dire, un mauvais livre. En ce sens que c'était un livre, c'était un roman qui se plaçait dans une période historique, qui ouvrait sur des perspectives un peu nouvelles, des sujets qui avaient été assez peu abordés, ce qui avait été abordé au cinéma en réalité, mais qui était assez bien fait. Donc Pierre Lemaitre d'ailleurs a expliqué qu'il y avait un savoir-faire qui lui venait du roman policier. Ce que j'ai dit, ou plutôt laissé entendre, c'est que le Goncourt, dans sa vocation originelle, c'est-à-dire le legs d'Edmond Goncourt, était quand même plutôt avait plutôt pour vocation de rechercher des talents nouveaux. Et là, j'avais pas le sentiment qu'il y avait une approche réellement nouvelle et particulièrement intéressante de la réalité et de l'écriture. C'est ce que j'ai dit. Il y avait d'autres livres, c'est plutôt ça d'ailleurs que j'ai dit, il y avait d'autres livres qui étaient plus intéressants que lui. Et voilà, sans dévaloriser du tout ni l'auteur, qui est un personnage tout à fait, enfin, plus qu'estimable, quelqu'un de très bien, et un livre qui est tout à fait recommandable, mais qui n'est pas le meilleur livre ou le livre le plus intéressant de la rentrée littéraire. Et j'ai exprimé un peu de déception par rapport à ça.
D'ailleurs, on sait que ce vote, il s'est fait assez serré avec un autre livre. Est-ce que vous savez quel était le concurrent de Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre?
Alors, je ne suis pas certain d'avoir une bonne mémoire. Je crois que c'était Frédéric Verger, Ardennes de Frédéric Verger, qui était un premier roman. En tout cas, il faisait partie des quatre finalistes. Donc, c'était un roman qui était, à mon avis, beaucoup plus ambitieux, extrêmement classique. Renvoyant par bien des points à une tradition littéraire et à certaines œuvres, je pense notamment à La Montagne Magique de Thomas Mann ou à des œuvres comme ça. Il y avait aussi le livre de Jean-Philippe Toussaint, Nu, qui était un livre absolument fascinant, d'un auteur qui a vraiment une très forte personnalité, une grande originalité. Et voilà, je pense qu'il y avait de meilleurs choix. Évidemment, on a voulu peut-être privilégier l'entrée dans la commémoration de la guerre de 14 et aussi un livre qui n'avait pas de difficulté à trouver un très grand public, parce qu'on compte aussi sur les prix, il faut le savoir, pour soutenir la vente de livres.
Oui, c'était un petit peu dans le contexte de cette année pour... En rappel de tous les organismes qui font des cérémonies un peu... de mémoire à propos de la guerre de 14-18, donc c'était un petit peu lié au contexte aussi, ce choix, sans doute.
Moi c'est les hypothèses que je fais à titre personnel, parce que les jurés ne se sont pas expliqués sur leur choix. D'ailleurs, il ne faut pas demander à chaque jury de justifier son vote, parce qu'on n'en sortirait plus. Et donc ça, ce sont des hypothèses, mais bon, il y a de fortes chances que ça ait joué quand même.
Pierre Lemaitre dit qu'il est inspiré par le cinéma. Est-ce que vous pensez que c'est cet élément qui fait défaut au livre ou pas ?
Non. Le cinéma est présent dans la littérature massivement. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'auteurs qui peuvent être d'ailleurs des auteurs extrêmement sophistiqués dans leur écriture, dans la composition de leurs livres, qui travaillent sur le cinéma, travaillent sur des codes cinématographiques, sur des images, etc. Mais c'est simplement... Non, je pense que là, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est un petit peu problématique, c'est que quand un livre ressemble un peu trop à un scénario, voilà. Là, je trouve que ce n'est pas forcément le cas, d'ailleurs, de celui de Pierre Lemaitre. Hein. Mais voilà, bien souvent, on voit des auteurs qui écrivent, je dirais presque, pour être scénarisés.
D'accord. Merci beaucoup. On va maintenant se faire une petite pause musicale. Et Laura, tu vas nous en dire un peu plus sur ce groupe.
Oui. Love Shack, voilà la chanson que j'ai choisie pour illustrer 2013. Une chanson qui bouge, qui donne la pêche, histoire de finir sur une bonne note, de prendre l'année déjà bien entamée du bon pied et d'illustrer différemment la Saint-Valentin qui arrive. Love Shack, c'est la chanson phare de l'album Cosmic Sing des B-52. Et oui, je remets au goût du jour des vieilleries, parce que les B-52 ne datent pas d'hier, mais des années 70-80. À la base, ce groupe se réclame du courant New Wave de l'époque. On le qualifie aussi de post-punk pop-proc, autant dire qu'il est assez indescriptible dans son genre. J'ai jamais eu l'occasion d'écouter des groupes qui ont cette même touche déjantée, hybride et colorée. Donc c'est un mix entre une bonne batterie, une bonne basse, de sons improbables et de super voix. Cosmic Sing, c'est pas leur premier album qui a marché, mais pour moi c'est de loin le plus réussi. Ils sont partis de mélodies plus psychédéliques, un peu en quête de leur identité musicale, pour arriver au final à des morceaux bien complets, pas comme certains artistes qu'on entend sur les ondes qui acclinent genre 20 mots sur deux accords avec une pseudo-mélancolie. Non, là c'est vraiment crazy, riche, avec une vraie marque de fabrique B-52. Une musique entraînante, douce et folle à la fois, illustrée par des clips vidéo colorés et plein de choucroute capillaire, symbole des deux chanteuses Kate et Cindy. Je vous laisse avec Love Shack, les B-52. Hey, yes, hey.
est toujours au Grand Moulin avec Alain Nicolas et on parle littérature. C'était Love Shack de B52. Maintenant, nous allons parler de deux romans qui sont sortis, enfin qui ont été publiés en 2013. La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafont et La nuit recommencée de Léopold Brizuela. Alors, ces deux romans, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ils sont un peu sur le même thème, c'est ça?
Alors, d'abord, je fais juste une petite correction. Ils sont parus en tout début janvier 2014.
Tout début janvier 2014.
Voilà, donc ce sont. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais pour les libraires, ça peut en avoir, parce qu'ils ont tendance à renouveler un peu leur table en début d'année. Donc, il y a celui de Lola Lafont, la petite communiste qui ne souriait jamais. Donc, comme on le sait maintenant, parce que c'est un livre qui fait beaucoup parler de lui, c'est une biographie. Réel, mais avec un certain nombre d'éléments de fiction sur les entours un peu de la vie de Nadia Comaneci, qui a été donc écrite par cet auteur, Lola Lafont, qui est une jeune romancière, qui avait plutôt des approches relativement, on va dire, un peu autobiographiques, qui parlait de sa vie, qui parlait de la vie de personnes qui lui ressemblaient, en tout cas. Et là, il y a un travail qui est plus compliqué, parce qu'elle a vécu en Roumanie à l'époque où Nadia Comaneci était une idole, et à l'époque où Nadia Comaneci y vivait elle-même. Donc c'était un personnage qui faisait partie de son univers. Elle raconte qu'elle avait sa photo sur sa table de nuit, etc. Donc il y avait quelque chose de tout à fait de très fort pour elle. Et c'est un livre qui va croiser plusieurs thèmes. D'abord le thème de ce qui se passe quand une petite fille devient une grande championne, de ce qui se passe dans son corps, de ce qu'elle doit consentir comme effort, de ce que ça implique dans ses relations avec ses parents, avec ses camarades, avec son entraîneur, ce que ça implique de devenir une idole dans un pays où on n'a pas trop le choix entre être une idole et être une réprouvée. Et puis, le regard qu'on a pu avoir sur le sport, qui a changé radicalement à partir du moment où quelqu'un, donc son entraîneur, s'est aperçu que le corps des petites filles, leur petit format, leur petit volume, permettait de faire des choses qui étaient absolument impensables quand on était, une jeune femme ou une adolescente vraiment en fin d'adolescence. Donc il y a eu déjà cet aspect-là, et en même temps le regard qui était posé sur Nadia Comaneci était le regard des juges de la gymnastique, et en même temps le regard des spectateurs et des journalistes, qui là était un regard d'homme, qui a changé quand elle a commencé à devenir plutôt une femme. Il y a vraiment toute une problématique comme ça sur le regard qui est posé par la société sur une petite fille, sur une jeune fille, sur une femme, et sur son corps et l'usage qu'on en fait, qui est passionnant. Et puis il y a évidemment tous les éléments de la biographie de Lola Lafont qui peuvent se croiser un peu avec celui de Nadia Comaneci. Elle imagine qu'elle entre en contact avec elle, ce qui n'a pas été le cas, là c'est totalement inventé, qu'elles échangent des emails. Et en même temps il y a aussi un retour d'expérience de vie dans ces pays-là, avec la volonté à la fois de ne rien cacher de la dureté du régime, et en même temps de montrer que c'était aussi un régime dans lequel on pouvait vivre, partager des choses, que l'absence de liberté pouvait aussi amener peut-être plus de solidarité, plus de créativité, et peut-être plus de sérénité face à la consommation, par exemple.
Mais
Elle coupe un peu avec une vision qu'on a actuellement de la gym, de quelque chose de très gracieux. C'est vrai que quand elle recontextualise ce monde du sport, de la culture du corps, etc., et ces filles qui deviennent un emblème pour la nation roumaine, c'est assez loin vraiment de ce qu'on peut avoir, une image assez triste, assez dure de ce monde-là du sport qui porte beaucoup de symboles.
Plus dur que triste, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, elle ne cache pas la difficulté de l'entraînement, les efforts qu'il faut consentir, et en même temps, les blessures, les douleurs, les compétitions qu'il faut faire alors qu'on a trois doigts d'une main qui sont luxés. Voilà, enfin, il y a bien sûr, alors ça existe dans beaucoup de sports, ça existe dans la gymnastique aujourd'hui, ça peut exister dans la danse. La fond a pratiqué la danse elle-même, elle sait qu'il peut y avoir aussi une sorte de, voilà, d'assaise et de mortification même du corps. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre que Nadia Comăneci a cette capacité de recomposer ses figures, de les réécrire en les faisant elle-même.
Oui, réécrire au millimètre près dans le geste et aussi voilà. Réécrire sa vie quelque part qu'elle soumet dans le roman, c'est l'idée qu'elle...
Voilà, qu'elle absolument, promet. Absolument, oui, c'est justement l'intérêt pour un écrivain de voir quelqu'un qui se sert de son corps comme d'un instrument pour écrire dans l'espace un certain nombre de figures, de postures. Jouer avec des vitesses, jouer avec des trajectoires.
Réécriture qu'elle a d'ailleurs du mal à faire dans le reste de sa vie par la suite de cette période de sport très intense. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le roman La nuit recommencée ? Est-ce qu'il y a un parallèle à faire, par exemple, avec celui de Nadia Comăneci ?
Il y a un parallèle, si on veut. C'est-à-dire que le parallèle ne repose que sur le travail, le va-et-vient qu'on peut faire entre aujourd'hui et puis une période passée. Alors, il y en a un, évidemment, c'est que les événements fondateurs des deux livres se passent à peu près au même moment, hein, puisque les Jeux de Montréal se passent en 76 et que la dictature militaire en Argentine, en 76, elle est là. Puis il va y avoir la Coupe du Monde, enfin il va y avoir des tas de foot, il va y avoir des tas aussi des éléments sportifs qui vont jouer. Mais lui, Brice Ouellet n'en parle pas. Bon, ce qui est intéressant, c'est que le narrateur constate il va constater qu'il y a un vol dans la rue dans la nuit. Il rentre très tard le soir. Il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui fait les 100 pas dans la rue. Il se dit que c'est peut-être un guetteur qui va attendre quelqu'un ou qui va essayer, et il sait qu'il y a une technique qui consiste à attendre les gens, à les faire et à les accompagner quand ils rentrent chez eux, à les obliger à ouvrir leur maison et à les cambrioler sans violence particulière. Voilà. Et en même temps, il fait le rapport entre ça et les descentes des services secrets de l'armée argentine, accompagnés par la police, parce que là, il s'aperçoit que aujourd'hui encore, la police peut être complice de certains voleurs et peut sécuriser de façon totalement illusoire une rue et en fait plutôt accompagner les braqueurs.
En revenant sur ce qui s'est passé en Argentine durant la dictature, comment en France, alors qu'on connaît très peu de choses sur ce qui s'est passé, peut être perçu ce livre écrit qui revient continuellement sur ce qui s'est passé en Argentine ?
Alors ça, c'est difficile de répondre comme ça, mais d'abord je voudrais dire qu'il va y avoir dans un mois et une semaine le Salon du Livre dans lequel l'Argentine est le pays invité. Donc on va peut-être avoir l'occasion d'en parler. Alors Brizuela, Leopoldo Brizuela sera là. On aura l'occasion d'en parler un peu plus. Et d'avoir des informations. Alors maintenant, on sait qu'il y a eu cette dictature argentine. On sait peu de choses. On a oublié beaucoup de choses. Mais ce qui peut être intéressant dans un livre aussi, c'est que, disons, le fait qu'il soit assez, qu'il évoque quelques éléments historiques, par exemple, nous incite à y aller voir. C'est très facile aujourd'hui. Bon, il y a en 76, si on voulait savoir ce qui s'était passé à l'époque de la période de Perron, c'était compliqué. Il fallait aller dans les bibliothèques, aller feuilleter des revues. Là, maintenant, en quelques clics, on peut savoir énormément de choses sur les dictatures militaires argentines. Je pense que les livres, d'ailleurs, jouent un rôle différent maintenant, justement, par rapport à ce type d'information.
Merci Alain-Nicolas pour cette réponse. Alors, rien à voir. Laura, tu avais fait une découverte musicale cette fois en 2013 d'un groupe un peu dingue, je crois.
Dingue, c'est peu dire. Je vais faire assez court pour vous présenter ce groupe vraiment très, très particulier. Il est composé de trois personnages, Yolande Visser, DJ High Tech et Ninja. Alors, c'est du rap très coloré. C'est du rap donc sud-africain. C'est un monde totalement à 1000 années-lumière de nous. Je vous incite vraiment à aller voir des vidéos, leur site, etc. Donc c'est Die Antwerps et c'est vraiment une contre-culture. Ils ont une culture propre à leur groupe, donc une culture ZEF. Et vraiment, ils ont ce côté autant schlaggy, coloré, bling bling, très gangsta américain, mais vraiment d'Afrique du Sud. Donc je vous invite vraiment, vraiment à aller voir parce qu'ils ont... Ils sont très trash, ça c'est sûr, mais ils ont à côté de ça une vraie démarche de promotion de la différence, qu'elle soit physique ou dans leur façon de vivre. Donc l'avantage, c'est que c'est de la musique, vous allez le voir, c'est un peu trash, mais je vous propose d'écouter leur morceau le plus commercial de leur album Tension. Donc c'est Babies on Fire, Die Antwerps.
Babies on Fire de Dead and Throat. Maintenant, nous allons parler de ce qui s'est passé début janvier 2014. Tardi, un célèbre auteur de bande dessinée, a refusé la Légion d'honneur. Monsieur Alain Nicolas, que pensez-vous de cette réaction de Tardif?
Moi, je pense que c'est très cohérent de sa part. C'est Tardy et quelqu'un qui a toujours porté sur la société le regard de quelqu'un qui se situe assez radicalement dans l'opposition à tout ce qui peut être officiel, à tout ce qui peut être étatique. Et en même temps, on lui avait donné la Légion d'honneur pour un travail qu'il avait fait sur la guerre. Et c'est un antimilitariste qui ne se cache pas. Donc il a tout à fait été dans la continuité de ce qu'il a toujours dit. Et c'est très bien de voir quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui ne change pas. De ce point de vue-là, je trouve que c'est une réaction tout à fait cohérente et que j'approuve absolument.
Mais vous trouvez pas justement, donc c'est cohérent parce que c'est dans la lignée de ce qui défend, mais il y a pas quelque chose avec la Légion d'honneur qui est de l'ordre de ça ne se demande pas, comme il l'a répété. D'un côté, ça ne se refuse pas et aussi ça ne se porte pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une obligation à l'accepter parce qu'elle est aussi institutionnelle et ça reste une reconnaissance de ce travail?
Alors, c'est une reconnaissance, bien sûr, mais après, chacun est libre de considérer que la reconnaissance du lecteur est peut-être suffisante. Tout le monde, bien sûr, on pourrait avoir l'idée, la BD est un art qui est assez, disons, considéré comme mineur, et ça pourrait faire du bien à la BD d'avoir quelqu'un, un auteur de BD, un dessinateur qui obtient la Légion d'honneur. Bon, ça n'a pas été son raisonnement, et je pense qu'en même temps, heureusement, on est libre de refuser la Légion d'honneur.
Oui, voilà. D'un côté, on peut aussi s'accorder à son avis, puisque on entend souvent dire que tout le monde a la Légion d'honneur, que ce soit des chanteurs, etc.
Donc... Oui, en plus, oui, bien sûr. Et puis on peut ne pas avoir. Vous savez, Napoléon a créé la Légion d'honneur en disant qu'il fallait des hochets pour le peuple, puisqu'il n'y avait plus de titres nobiliaires. Donc on voit très très bien à quoi ça servait et à qui ça servait.
D'accord. Oui. Alors je voulais d'abord vous dire merci. D'être venu au sein de notre faculté.
C'est moi qui vous remercie.
D'avoir répondu à nos questions, de nous avoir un petit peu supporté, mais ça va. Est-ce que ça vous a plu?
Oui, tout à fait. Non, c'était des questions tout à fait pertinentes et voilà, et qui m'ont permis de dire ce que j'avais envie de dire.
Et de toute façon, on va vous retrouver à l'atelier de critique littéraire qu'organise la faculté dans le cadre de ces ateliers culturels. Et donc on pourra vous rejoindre pour plusieurs séances et pourquoi pas s'initier à votre métier si c'est possible.
Vous pouvez, de toute façon, il y a déjà une première séance et puis il y en a une dans une semaine.
D'accord, on vous rejoindra.
Deux semaines, pardon.
Ensuite, après tout ce qu'on a dit à propos de livres, parmi toutes ces œuvres de 2013, il y en a une, Laura, qui ne t'a pas laissé indifférente, mais qui date pas vraiment de 2013.
Effectivement, fini de vous parler de choses futiles comme des bars à chats ou de l'importance d'être superficiel. Non, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très sérieux. Je vais vous parler de l'histoire avec un grand H. Non pas à travers une encyclopédie barbante et poussiéreuse, mais à travers une série télé que j'affectionne particulièrement, La Petite Maison dans la Prairie. Oui, les amis, La Petite Maison dans la Prairie comme un puissant fond de connaissances, de valeurs morales, d'histoires que l'on peut glaner à chacun des 205 épisodes. J'en entends déjà certains me dire que je touche vraiment le fond au niveau culture G, que c'est sentimentaliste au possible, qu'un homme aussi bon que Charles Ingalls, ça n'existe pas ou plus, que Caroline Ingalls vous excède tant elle pleure pour rien et que tout se finit toujours bien dans le meilleur des mondes et dans le respect de la dignité humaine. Certes, je ne peux pas vous donner entièrement tort là-dessus, mais tout de même, regardons un peu plus loin que la niaiserie des scénarios. Pour défendre ce qui est pour moi un chef-d'œuvre d'instruction à l'américaine façon 7 à la maison, j'oserais vous dire qu'il n'y a pas de référence à l'époque aussi proche de la réalité que le contexte du village de Walnut Grove.
On y voit toutes les difficultés de ces fermiers musclés, suants de travail face à un pays en pleine transformation géoéconomique. Littéralement plongé dans l'Amérique des années 1880, on a envie d'aider ces braves gens qui connaissent le véritable sens du labeur. On y voit la révolution industrielle bouleverser la vie tranquille d'une communauté soudée. Parce que c'est aussi cela, la petite maison dans la prairie. C'est un message de paix, d'amitié et d'amour, pour Dieu surtout, il faut le dire. Tout un panel de valeurs qu'on aimerait croiser ces temps-ci. Ce qui est également surprenant, c'est qu'elle n'a pas pris une telle ride, cette série. Pourtant, sortie en 1974, on y aborde les mêmes thèmes que dans Plus belle la vie aujourd'hui. Les problèmes d'argent, l'addiction, le handicap, la maladie, l'adultère, la délinquance. Il n'y a rien de vintage. À part les robes en rideaux de grand-mère, ah non, même elles sont revenues à la mode l'an dernier. Bref, il n'y a vraiment rien d'old school dans cet éloge télévisé du partage et de la société en perpétuel mouvement. Et je vais même vous étonner en vous dévoilant la touche rock'n'roll des Ingalls. Dans le tout dernier épisode de la série, les habitants sont obligés de déménager à cause d'une nouvelle ligne de chemin de fer qui doit traverser le village. Mais les Ingalls et leur ami ne se laissent pas faire, c'est pas des lâches. Au lieu de partir impuissants, abattus sous le joug des capitalistes en herbe, eux ils font tout péter, vraiment tout péter. Ils prennent leurs réserves de dynamite et font sauter chacune des maisons, excepté bien évidemment l'église au sacro-saint symbole de l'Amérique. Alors voilà mon conseil pour 2014. Replongez-vous dans cet univers mythique bien loin des séries futuristes et angoissantes.
Merci beaucoup Laura. L'émission s'achève. L'atelier radio également. Voilà, c'est la bonne fin sur La petite maison dans la prairie. Je remercie Léonie, Laura, Grace et Flore d'être venues ici de l'atelier radio. Je remercie Guillaume d'avoir aidé. Je remercie Henri, Alain Nicolas également qui nous quitte. Jeanne-Marie, Christiane, Julien, Alexandra et Francette. Merci beaucoup, à très bientôt. En bonus, une chronique de Louise qui, comme je le disais, n'a pas pu être là avec nous cet après-midi, mais qui tenait à nous parler de la Star Academy. Je vous laisse découvrir.
Salut Jonathan, salut toute l'équipe. Alors, comment ça va tout le monde? Hein? Bah, y a personne qui me répond? Ah, ben oui, je suis bête, c'est normal. Mon passage est enregistré en différé. Figurez-vous, chers auditeurs, qu'en ce moment même, je suis en train de faire la standardiste doublée d'une hôtesse d'accueil aux cheveux laqués comme un canard à l'autre bout de Paris pour une école de commerce très 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 chère dont je conserverai l'anonymat. Pour être honnête, j'ai enregistré ces quelques paroles il y a exactement une semaine, toute seule, comme une grande. Donc si depuis une semaine il y a eu une guerre atomique ou un nouveau petit chaton torturé, ne soyez pas choqués que je m'en tamponne, je ne suis pas encore au courant. Bref. Alors aujourd'hui j'ai voulu vous parler rapidement d'un nouveau groupe musical qui effraie la chronique pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Personne n'est là pour rire à mes blagues, c'est très très frustrant. Non. Ce ne sont pas les nouveaux disciples des One Direction. Non, ce ne sont pas non plus des ados priapiques au visage vallonné de volcans purulents. Non, non et renom. La Star Academy, ce n'est certainement pas la version boutonneuse et pucelle des artistes extraordinaires que nous sert la Starac depuis plus de 12 ans d'âge mental. Mais un trio de tolards vénères qui, comme le montrent ces quelques paroles extraites des portes du pénitencier, font un parallèle exquis avec le monde de la mode et du stylisme.
C'est vendu comme sur un cintre. Depuis que je suis au placard, la justice m'a repassé, la juge m'a taillé un costard.
Leur album, sorti le 20 janvier, avant eux, comme ils se plaisent à dire, a été composé en prison. À l'origine du projet, Mouloud Mansouri, ex-prisonnier qui a voulu donner une chance à ses compatriotes de l'ombre. Après tout, pourquoi pas? Belle initiative pour contribuer intelligemment à la créativité de ces pauvres gars enfermés pour trafic de stupes. Et bah ouais, on n'allait quand même pas donner cette chance à des violeurs ou à des tortionnaires de chatons, faut pas pousser non plus. Deux membres du groupe sont sortis il y a peu, et les voilà déjà entremêlés dans les maillons délicieusement soyeux des médias, avec entre autres déjà 8000 likes à leur actif sur Facebook et des photos de filles à très très gros seins avec écrit « Starak Love » sur leur protubérance mammaire. Bref, le rêve de la liberté retrouvée.
Dans l'amour est au parloir, chez nous il n'est pas dans le pré. Ici tout le monde s'en fout de l'agriculture, mais c'est vrai qu'on aime le blé.
Alors que bon, ok, je veux bien saluer la démarche, mais franchement, si on penche un peu l'oreille, si on écoute un peu les paroles. Alors, déjà, là, je dis non. Non, quoi. On dit « je fais des pompes » ou « il ou elle fait des pompes ». Mais aucun être humain ne peut être qualifié par le déictique « ça ».
Tous les midis, ça fume la bombe.
Mais bombe de quoi? Non mais fumer une bombe, ça veut juste dire exploser. Donc j'espère qu'ils vont pas faire ça parce que c'est juste mais hyper dangereux quoi.
Toute la nuit, ça parle de tranches.
Mais tranches de quoi? De jambon? De quoi? Ils ont du fleurimichon là-dedans? Attends, c'est mes impôts qui payent ça?
Vive la jungle, ronge des ongles.
Ah bah alors ça, c'est pas très très malin comme conseil musical, parce que ronger ses ongles, c'est pas bon du tout. Non seulement on avale plein de bactéries, et puis on risque d'avoir des micro-lésions cutanées. Et puis surtout, ça fait des mains toutes caca, alors le bad, hein. Bref, vous l'aurez compris, en fait, la Starak, bon bah c'est sympa, mais bon... Je crois quand même que section d'assaut, ça a plus le sens du swing, non?
On tient juste à dire que le pont qui mène au succès est un pont fragile. J'ai demandé pardon!
Oui, oui, c'est bon, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Oh là! Oui, oui, on vous pardonne, hein. Allez, à la prochaine!